voit de loin ces rectangles noirs installés sur les toits des maisons façon Tetris. Sur la toiture du chai de Vincent Haillé, viticulteur bio basé à Cormeray, 500 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés. Derrière ces panneaux se cache l'action du collectif blésois Blaiswatt. Après 2 années de préparation, la centrale est en service depuis avril et produit ses premiers kilowatts verts. Le 20 mai dernier avait lieu l'inauguration de cette ferme solaire citoyenne, avec la présence de différents acteurs qui ont participé à ce projet. Rencontre donc avec Laurent Fèvre, membre de Blaiswatt, Laurent Buzine, gérant de la société Helios Solis qui a installé les panneaux, Raphaël Mercet, animateur régional du mouvement Énergie Partagée, dont fait partie Blaiswatt, et Nicolas Orgelet, vice-président d'Aglopolis.
En effet, vous allez les avancer vers moi.
C'est le seul endroit où ça se voit.
Par là.
J'ai un thé.
Vous avez un thé?
Oui, un thé.
Quel mot ça va former?
Ça va former énergie citoyenne Blaiswatt. Hein, pas mal.
Pas mal.
Thierry, tu as une manif il y a 3 ans. Il y a des élus qui sont là qui disent « mais c'est pas possible, il faut qu'on passe à l'action, ça sert à rien de manifester, on passe à l'action, allez on se retrouve à l'autre bureau ».
Alors au tout départ, en fait, ce sont des citoyens qui sont réunis dans à l'autre bureau, l'espace de coworking qui est au centre-ville de Blois. Et ce jour-là, en fait, je me suis retrouvé avec des membres du collectif de Vendôme, d'Énergie Vendômoise. Et on s'est retrouvé avec plein de citoyens. Et là, les citoyens nous ont dit « mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette histoire d'énergie? Comment on pourrait monter un tel projet ?» Oui, je m'appelle Raphaël Mercet et je travaille pour une association qui s'appelle Énergie Partagée. Et on s'est retrouvé à leur expliquer ce qui s'était passé sur Vendôme, puisqu'à Vendôme, il y a eu un projet identique à celui de Cormeray, une toiture photovoltaïque qui a été installée par un collectif citoyen. Et en discutant avec les citoyens, finalement, de fil en aiguille, on a fini par faire une conférence il y a 3 ans maintenant, sur Blois. Et lors de cette conférence, donc, on a réuni une quarantaine de citoyens de Blois qui se sont mis à travailler ensemble et à se dire « mais oui, pourquoi pas, peut-être se lancer dans un projet d'énergie renouvelable ». Et il y avait toutes les compétences autour de la table. Plein de gens de tous les secteurs différents. Ils connaissaient tous quelqu'un qui connaissait quelque chose qui pourrait faciliter le projet. Et c'est comme ça que tout est parti.
Il manque un A. Qui c'est qui a le A?
Non, mais c'est l'association Blaiswatt.
Ah, le A. Ouais, il y a W-A. T.
On
est à jour. Le I. Le A, il est là. Le A, là. Le A, ici. Ici, le A.
Alors Blaiswatt, c'est l'association qu'on a créée il y a maintenant 3 ans. Au départ, c'était un collectif de citoyens qui voulaient promouvoir les énergies renouvelables. En fait, en gros, faciliter la transition énergétique, qui s'est après surtout orientée vers les énergies renouvelables et puis la sobriété. Et puis donc cette association a cherché des projets, identifié quelques projets. Et après, pour faire les projets, donc on a identifié 2 projets de production, donc de centrales photovoltaïques. Et pour faire ces projets, donc on a fait appel à des souscripteurs et on est obligé de créer en fait une société, une SAS, pour pouvoir monter un capital, donc par les souscriptions des gens, et puis financer ces projets, faire des prêts bancaires, et puis pouvoir derrière vendre l'électricité à, en l'occurrence, à EDF OA. Donc je suis Laurent Fèvre, membre de l'association Blaiswatt et puis président de la SAS BWatt 41. Alors le premier projet là sur le chai de Cormeray, il est financé à... Il y a une grosse participation des citoyens, je crois qu'on est à plus... on doit être à 55 ou 60%. Et le reste, c'est une subvention de la région. Donc il est entièrement financé de manière, on va dire, autonome, sans appel aux banques.
Alors Énergie Partagée, c'est une association qui accompagne des collectifs citoyens, qui les fait émerger, et qui les suit sur toute la durée de la création de leur projet de production d'énergie renouvelable. Donc mon rôle, c'est vraiment de constituer le collectif, l'aider à se structurer, écrire les valeurs qui relient les citoyens les uns aux autres, Et puis je les aide à monter leur association, je les aide à créer leur site internet, leurs outils de communication, mais aussi surtout à créer leur coopérative citoyenne. Donc ils vont créer leur société et rédiger des statuts qui permettent de créer une société dans laquelle les citoyens ont une voix chacun, une personne égale une voix. Et ils vont s'engager à monter des projets d'énergie renouvelable, des projets écologiques, des projets à gouvernance ouverte au plus grand nombre. Et puis ils vont respecter des valeurs fortes.
Donc on va produire chaque année 115 000 kWh. Je viens de faire un petit tour discrètement derrière pour demander à chacun combien il consommait de kWh dans sa maison. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Alors s'il y en a qui peuvent me dire combien ils consomment, ce sera intéressant.
Combien ?
3500.
3500.
Moi je sais que la puissance dont je dispose.
3500
50 000, qui dit mieux.
Donc si on divise, on peut dire à peu près 3000. Donc ça veut dire qu'avec cette surface-là, on fournit l'électricité pour 40 familles, 40 maisons. Donc, voilà. Ça veut dire aussi qu'un 40e de ça peut être posé sur chaque maison et chacun devient autonome.
C'est simple.
Laurent Buzine va nous dire combien il y a de panneaux parce qu'on ne s'en souvient plus.
264.
Donc si on divise par 40,
il y a 264 panneaux.
Donc si on divise par 40, ça fait...
Oh. Eh ben, on divise par 4, 26 divisé par 4, ça fait un peu plus que 6.
Eh bien, photovoltaïque, photon, c'est une question de lumière. Et voltaïque, ben, c'est la fonction, c'est-à-dire que le photon produit la tension. Dans voltaïque, il y a volt, et donc il y a tension électrique. Alors moi, je m'appelle Laurent Buzine. Et mon entreprise s'appelle Heliosolis et nous sommes basés à Onzain dans le périmètre blésois. C'est une plaque de verre sous laquelle ont été enfermées des cellules de silicium. Alors le silicium, c'est pas dangereux, c'est la matière première du silicium, c'est du sable qui a été purifié à un taux très élevé, donc quasiment 100%. Et qui ensuite est fondu dans des blocs parallélépipédiques qui sont découpés en très 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 fines tranches qui font quelques microns et qui permettent, cette matière étant un semi-conducteur, de créer une circulation d'électrons qui s'accélère au contact du rayonnement lumineux, au contact de l'intensité lumineuse. Et donc ce panneau solaire, plus il est grand, plus il contient un nombre de cellules important, et donc plus il est capable de faire circuler ces électrons qui produisent une tension électrique, là qui est en volts, et qui est récupérée par des fils, et ensuite convertie en électricité exploitable par tout à chacun, c'est-à-dire qu'un panneau solaire produit du courant continu, comme une pile. L'association des piles permet d'augmenter la tension. Eh bien, l'association des panneaux solaires photovoltaïques permet d'augmenter la tension du groupe. Et ensuite, c'est un calcul qu'on fait entre ce qu'on veut obtenir comme puissance. On a des notions de limite et de limite acceptable par l'appareil qui redresse ce courant continu en courant alternatif, ce qu'on appelle un onduleur. Et le courant alternatif étant celui qu'on utilise communément dans sa maison pour la lumière, pour le four, le thermomix, que sais-je. Et donc c'est ni plus ni moins qu'un panneau photovoltaïque, c'est ni plus ni moins qu'une pile qui produit une tension et qu'on exploite en la redressant à des fins d'utilisation standard. Et on a passé beaucoup trop de temps à considérer qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Et le temps a passé, le parc nucléaire aujourd'hui pose beaucoup de soucis de maintenance, voire même d'interrogations sur des usures qui sont bien plus avancées que ce que pouvaient imaginer les concepteurs, et qu'en plus on est face à une crise énergétique qui devient planétaire.
et qui suscite là aussi beaucoup d'interrogations en Europe, parce que l'Europe ne produit pas ou peu d'énergie, et en l'occurrence la France a trop peu préparé sa transition énergétique vers le renouvelable, qui lui est local.
Oui, je vois tout à fait. C'est des rotations de talents.
Ah, bon, moi, je plante pour 40 ans. Ouais. Mais il y a aussi des parcelles qu'on a parce qu'on les a et on ne mettra jamais de vigne parce que c'est pas pratique. Quoi. Parce qu'elles sont toutes seules isolées, parce que c'est dans un. Voilà, c'est des bouts de carré. Malheureusement, 30 hectares, on est dans de la production quasi industrielle et on a des engins où il y a plein de place. Quoi. Et donc, par exemple, pour traiter, on a un pulvée qui fait 6 ans. Donc, si on plante une parcelle qui fait 5 ans, c'est pas pratique.
Alors, nous, on est en bio depuis 2008. Moi, je suis issu de la formation agricole française classique, dans lequel il y a une grosse vingtaine d'années, le bio, c'était un peu comme un démon. Donc, quand j'ai commencé à travailler, on n'était pas en bio. Il a fallu que j'aie une approche de ça. Et aussi, en manipulant les produits chimiques, je me suis rendu compte que c'était une horreur. Donc voilà, petit à petit, on est venu au bio. Et après, depuis une fois qu'on a commencé le bio, on ne veut plus arrêter, quoi.
Donc, je m'appelle Vincent Hayet, je suis l'exploitant du domaine de Moncy. Je suis installé depuis le mois d'octobre 2020. Voilà, et j'ai repris l'exploitation, donc je suis associé avec des investisseurs. Et donc moi, j'ai repris cette exploitation où je travaillais depuis 18 ans auparavant. Je connaissais très bien Gilles Guélier et Anne Martin, qui sont des amis. Et en évoquant le projet, parce qu'on se voit régulièrement, j'avais dit que moi je voulais mettre des panneaux solaires sur le toit. Pour des questions de budget, c'était compliqué par rapport au projet global, parce qu'on dépassait ce qu'on avait prévu d'investir dans ce bâtiment. Et eux, ça correspondait où, à la moment où donc Blaise-Watt existait, ils venaient de fonder la SAS où elle était en cours. Et en fait, ils cherchaient un projet pour installer des panneaux où il n'y avait pas besoin d'investir dans le bâtiment en dessous, quoi. Et donc on a commencé comme ça, en discutant, en buvant un coup, et puis voilà, après c'est parti. Jusqu'au bout du projet.
Alors l'installation, elle est là. Ça fait du bruit, pas. Donc ça, c'est la partie les onduleurs, donc c'est ce qui transforme le courant des panneaux solaires au courant admissible pour le réseau. Et après le gros tuyau là, c'est le câble. Donc là, je sais pas à combien ils sont, mais ils doivent produire un peu. Au maximum, ça fait 100 000 watts en instantané, c'est pour ça que le câble est très gros. Et après, toute l'installation, ça repart. Ça repart là, et ils nous ont... Enedis a installé un nouveau transformateur, parce que le transformateur existant n'était pas capable de supporter la puissance de l'installation. Voilà, puis après, c'est rebranché sur le réseau et ça repart dans le courant.
Et les vignes qu'on voit là, c'est à vous ?
Ouais, ou... tout là.
D'accord. Vous avez combien d'hectares ?
30. Donc c'est plutôt une grosse exploitation. Alors moi je produis du cheverny et du courcheverny en appellation. Donc cheverny c'est blanc, rouge et rosé. Et courcheverny c'est que du blanc avec un cépage le romorantin qui est le cépage autochtone. Donc on fait à peu près, quand ça va bien, 150 000 bouteilles par an. Alors c'était une démarche globale, c'est-à-dire que le bâtiment est construit de manière écologique, donc c'est isolé, c'est en bois, isolé en boîte de cellulose. On a essayé de travailler sur la ventilation naturelle, c'est chauffé par un poêle à bois. Donc ça me semblait aller dans la bonne démarche de produire du courant. Comme le bâtiment est grand, qu'on pouvait l'orienter comme on voulait, parce que les terres en dessous elles sont à moi, donc on faisait ce qu'on voulait. Voilà, et donc je me disais que ça allait dans la démarche globale d'une exploitation en agriculture biologique de produire du courant quand on pouvait, quoi. Alors le bâtiment, il fait à peu près 700 mètres carrés, couvert, clos, plus avec les hangars, ça fait un peu plus de 1000 mètres carrés. Et les panneaux représentent 500 mètres carrés de toiture. Il reste encore de la place pour en mettre d'autres. Sur la partie production d'électricité, comme il reste de la place, moi je voudrais mettre des panneaux en plus et puis une deuxième installation d'onduleur pour faire de l'autoconsommation. Voilà, pour limiter ma consommation de courant. Et après, sur ce genre de démarche, là pour l'instant, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est de consommer un minimum à la fois de gasoil, de toutes les énergies fossiles. Donc par exemple, on chauffe l'accueil avec un poêle à bois. Hop, on fait le tour par là.
Je vous suis. Et pourquoi la vigne ?
Parce que j'aime bien boire du vin.
À bientôt ! Ouais, ça roule.
Ouais. Il faudrait du personnel de
service. Il y aura des gens pour servir.
Personnel, pour servir.
Ça, ça fait bien, bien sûr.
Non, mais on est satisfait. Ça, ça fait deux choses. Ça permet bon, un groupe avec l'association où on travaille avec bon, vraiment actif. On est 10-15 personnes. Mais bon, on a été embêtés parce qu'on a fait tous ces projets pendant la pandémie, donc avec sans réunion, uniquement en visio. Donc ça n'a pas aidé. Mais ça permet d'avoir des gens d'horizons différents de travailler ensemble et puis de faire un projet sur lequel on n'y connaissait rien. Donc avec des questions, donc les relations avec Enedis, trouver des installateurs, trouver un assureur, faire un bail emphytéotique, des choses qu'on ne connaissait pas. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses et puis d'élargir un peu son horizon.
Steak ! Plus fort, steak ! Encore, steak ! Bien devant les doigts et les lettres maintenant. Bien devant, tout le monde vers moi. Bien, voilà, on va y arriver. Trop bien, merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut faire une avec tous les mains levées, s'il vous plaît ? Attention, steak ! Plus fort, steak ! Voilà, merci.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de projet ?
Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure à un des porteurs de projet. Je trouve ça plutôt enthousiasmant de se dire que un collectif d'habitants d'horizons différents arrive à monter un projet et voilà, qui se concrétise, qui est un projet innovant, qui est à double tranchant, à la fois innovant d'un point de vue pour l'agriculteur qui va du coup hacher un peu exemplaire, et puis innovant aussi en termes de production d'énergie où il y a tellement de granges, de chais sur le territoire qu'on se dit peut-être qu'à force on arriverait à avoir une autonomie énergétique sur l'ensemble du territoire.
Vous êtes maire de quelle commune ?
Alors je suis maire de Cheverny. Okay. Nous, il y a une problématique qui est un peu spécifique, c'est qu'il y a deux châteaux et donc deux périmètres classés, et donc il faut composer avec aussi l'aspect architectural. Et donc c'est une autre problématique à gérer que simplement poser des panneaux sur un toit. Quoi. Voilà.
Et ben, troisième discours.
Timing.
J'ai trouvé un peu dur tout à l'heure l'aglo. Il est où Nicolas ? Il est là, Nicolas. C'est un peu dur à avoir dit l'aglo n'a rien fait. Parce qu'en fait, je vais vous montrer que l'aglo a fait énormément. Et sauf que ça s'est pas vu. Vous avez travaillé dans l'ombre sur plein de trucs. Et ça s'est pas vu, mais c'est important. Il y a quelque chose qui...
Alors moi, je m'appelle Nicolas Orgelet. Et donc, je suis vice-président de l'agglomération en charge de la transition écologique et énergétique. Alors l'agglomération, du coup, c'est 43 communes qui sont ensemble et qui délèguent certaines politiques publiques à un organisme du coup public qui représente les différents maires et qui porte les stratégies de territoire. Et en l'occurrence, on doit porter la stratégie de territoire sur les énergies. Et en même temps, on porte ce qu'on appelle un plan climat, c'est-à-dire comment on organise la transition écologique pour tenir les objectifs de la COP, qui après se décline dans des objectifs nationaux et puis locaux. Dans les objectifs en termes d'énergie, on doit multiplier par deux notre production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Ça, c'est un objectif du plan climat. Pour multiplier par deux nos productions d'énergie renouvelable, on a finalement assez peu de possibilités, parce que assez peu de potentiel, dans le sens où, à côté de ça, comme on veut que tout fonctionne, on essaye aussi de préserver les terres agricoles pour la sécurité alimentaire. Donc on va par exemple pas mettre de photovoltaïque sur du plein champ. On essaie aussi de préserver la biodiversité, donc on va pas mettre de photovoltaïque dans des zones de biodiversité. Et donc finalement, assez rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé où est-ce qu'on a des zones de potentiel, qui sont en général ou les sites pollués ou les sites où on peut avoir plusieurs usages, par exemple des toitures, par exemple des parkings où on va mettre des ombrières. Et donc on a fait ce recensement là et j'en arrive à ce projet citoyen. En quoi c'est utile ? En fait, c'est utile, les projets citoyens, parce que ça nous permet d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite que si on était tout seul, avec des promoteurs privés qui peuvent nous solliciter pour des projets aussi d'énergie renouvelable, parce qu'il faut savoir que c'est rentable de produire de l'énergie renouvelable, et que du coup on a aussi de plus en plus d'opérateurs qui vont solliciter les communes pour dire, presque des fois un peu leur mettre la pression pour qu'ils fassent de l'énergie renouvelable, et les communes ne savent pas répondre. Et en fait les citoyens, eux, petit à petit, ils deviennent des experts du sujet, ils font en sorte que les projets éthiquement soient cohérents, se mettent aux bons endroits, ils vont aller chercher les opportunités. Quand il y a des maires qui sont sollicités, ben ils vont dire aux maires comment faire pour que le projet soit intéressant, leur conseiller de prendre des parts par exemple pour intégrer la gouvernance d'un projet d'éolien ou de photovoltaïque, ce qui évite que par exemple un projet de photovoltaïque qui soit revendu à un fonds de pension américain, et puis que le jour où il y a un problème on n'arrive jamais à joindre aucun responsable. Donc ça permet aussi d'avoir des responsabilités locales sur le territoire, et que le maire il soit rassuré sur le fait qu'il aura toujours un interlocuteur en gestionnaire du projet. Et puis l'autre intérêt pour le territoire, c'est que l'argent aussi revient sur le territoire. En plus de rentrer dans la gouvernance, et donc d'avoir la maîtrise de ce qui se fait, et de pouvoir mettre des conditionnalités à la manière dont ça se fait, par exemple, on ne veut pas que les panneaux viennent de Chine, par exemple, on veut que l'entretien soit fait par quelqu'un de local pour créer de l'emploi. Ça peut être ce type de conditionnalité. On peut dire aussi, on a aussi un retour sur investissement, puisque nous-mêmes, on a porté une part de l'investissement, on a un retour sur investissement qui a permettre de porter d'autres projets d'énergie renouvelable pour le collectif citoyen, et donc d'accélérer la production d'énergie renouvelable. Et puis, mais ça peut être pour une collectivité aussi, son retour sur investissement, elle peut le remettre dans une école, elle peut le remettre dans une garderie, voilà. Et puis, à côté de ça, ça nous rend aussi moins dépendants d'énergie qu'on va acheter à l'extérieur. Et donc des hausses des coûts de l'énergie. Aujourd'hui, par exemple, avec la guerre en Ukraine, on voit bien que le coût de l'énergie explose, et qu'on ne peut pas, en même temps, dans les relations diplomatiques qu'on a, ben, on est coincé, parce qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain on va se passer du gaz russe, parce que ça ferait presque blackout. Et en fait, ça nous permet aussi de reprendre un peu le contrôle de nos vies et de nos politiques.
Alors évidemment, j'ai été consulté comme d'autres, et puis on a cherché les moyens de travailler ensemble avec une offre qui soit peut-être un peu plus occidentale, c'est-à-dire on a parlé de l'origine des panneaux, de l'origine de l'onduleur, de ce qui conçoit l'installation, pour faire en sorte d'avoir un taux d'asiatisation de la fourniture qui soit le moins possible, et c'est ce qui a fait la différence. Mais la différence, elle a aussi été faite parce que il y a une grande partie des souscripteurs du collectif qui sont déjà clients d'Helios Solis, et dont je me suis aperçu qu'ils étaient là. Et effectivement, c'est une grande fierté, parce que ça veut dire que la confiance qu'ils ont pu nous allouer à titre individuel, ils ont aussi été capables de la transposer à titre collectif, en disant on a des acteurs locaux qui sont capables de faire ça, et on va leur faire confiance, même si la taille du projet est supérieure à ce qu'on leur a fait faire jusqu'à présent.
Donc au niveau des puissances, ça va de quelques kilowatts à quelques mégawatts, donc c'est facile de choisir, et ça s'installe sur des toits. Donc c'est aussi pour ça qu'on a commencé, parce qu'on pouvait faire des projets de taille significative, donc ni trop petit où on aurait passé beaucoup de temps pour un rendement ridicule, ni trop gros. Donc là on a fait deux projets de 100 kW crête, qui permet, donc des projets relativement sérieux, mais qui permet, en gros, on va dire, de se faire la main. Et aussi, le fait de travailler avec des agriculteurs, on a un seul contact, ça va relativement vite à monter, quoi. Bon, même si quand on dit relativement vite, c'est quand même 2-3 ans. Donc, par rapport à des... On a regardé les autres projets, l'hydraulique, on est dans une région qui est un peu trop plate pour que ce soit rentable, même si on a... Donc, on a regardé sur la 6, où dans le temps, il y avait une trentaine de moulins. Bon, la majorité ont été démantelés. Il y en a encore un ou deux qui tournent, et on a un projet sur un moulin. Par contre, il y a tellement de travaux qu'on craint de ne pas avoir la rentabilité, mais on essaye quand même. Et puis l'éolien, là aussi on a des contacts sur l'éolien, mais c'est des projets beaucoup plus gros sur lesquels on peut pas être l'acteur principal, donc quand c'est en partenariat. Et se rajoute à ça donc la taille du projet qui est très grosse, et puis la gestion des oppositions qui est aussi un problème. Donc pour ça on est en contact avec la mairie de Valencis qui pourrait avoir un projet, Mais un projet d'éolien, c'est quasiment 8-10 ans, quoi. Donc, et c'est forcément un partenariat avec quelqu'un pour nous. Alors que le photovoltaïque, on peut rester sur des tailles où on maîtrise tout.
Le solaire, mais comme l'éolien ou comme la redéfinition de l'hydraulique, sont des leviers qui peuvent être activés très rapidement. Et beaucoup plus rapidement que d'autres installations plus lourdes qui suscitent des études, des temps de construction, etc. Là, ici, il suffit juste de mobiliser les surfaces disponibles et principalement sans manger de surface agricole, sans manger quoi que ce soit, qui sont à la fois les toits des bâtiments de production, mais aussi des immeubles, enfin des bâtiments d'habitation. Et avec une capacité à pouvoir injecter dans le réseau une très grosse quantité d'énergie qui peut assez rapidement, et justement pour surseoir à d'autres crises qui pourraient s'ajouter à celles qu'on vit aujourd'hui, une indépendance beaucoup plus rapide de la France.
C'était l'idée d'avoir des projets collectifs. C'est surtout d'avoir des projets collectifs parce que ça permet de faire des gros projets qui ne sont pas à la portée d'un particulier. Et en même temps d'impliquer les gens qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe ou qui voient ça de loin et qui peuvent avoir des a priori, d'impliquer plus largement pour sensibiliser un peu la population et tout le monde. Et ce qu'on dit aux gens, parce qu'on récolte de l'argent, donc les souscriptions, certains voient ça comme des dons. En fait, c'est pas des dons, c'est bien des actions, même si pour certains c'est un gros mot, qui sont rémunérées, qui permettent d'avoir à terme un dividende. Donc c'est, on se dit aussi, il y a des gens qui mettent leur argent à la caisse d'épargne pour un rendement ridicule. Autant qu'ils nous le donnent, ça permet de financer des projets d'énergie renouvelable et à la fin, ils récupèrent leur argent de la même manière.
Créer l'association, créer le site internet, créer les flyers, les images, les banderoles, discuter tous ensemble, rencontrer les différents partenaires, identifier du foncier. Et c'est seulement après, presque en dernière étape, où ça a été le contact avec un professionnel qui est venu et qui a installé tout ça très rapidement. Mais la majorité du boulot, ça a été bien avant cette phase de préparation. Ce qui fait que le collectif est en mesure maintenant de sortir un projet peut-être tous les ans, sans doute sans aucun problème. Et on a l'outil qui fonctionne et qui peut permettre de faire ça.
Alors une fois que les panneaux sont posés, en fait, oui, c'est le collectif qui est propriétaire. C'est la coopérative citoyenne qui est propriétaire des panneaux pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, donc la coopérative a emprunté à la banque. Elle a utilisé l'argent de la coopérative, c'est-à-dire des différents souscripteurs. Donc il y a 120 citoyens qui ont mis un peu d'argent dans la coopérative. Cet argent a permis de financer avec l'aide du conseil régional, avec une subvention, et puis avec l'aide de la banque par un emprunt, a permis de financer cette toiture d'environ 100 000 euros. Et pendant 20 ans, l'électricité est vendue sur les réseaux électriques, et donc la coopérative vend de l'électricité et rembourse au fur et à mesure ses emprunts. Et à la fin de chaque année, il reste un petit peu d'argent sur le compte de la banque et sur le compte de la coopérative. Et là, l'ensemble des citoyens décident ce qu'ils font de cet argent. Est-ce que l'argent est gardé pour d'autres projets? Est-ce qu'il va dans la poche des actionnaires, donc des souscripteurs actionnaires? Est-ce qu'on va financer des activités d'associations locales pour faire des projets pédagogiques? Et toutes ces questions-là sont débattues entre les souscripteurs et les citoyens qui ont pris des parts dans la coopérative.
Donc, si vous avez des toitures disponibles, si vous avez des envies de monter des projets, si vous repérez une salle des fêtes ici, une école avec un grand toit là, le collectif est disponible pour travailler là-dessus, sur ces projets.
L'intérêt en fait qu'on a d'avoir Blaise-Watt, c'est qu'un collectif, c'est long à se mettre en place. Et il y a beaucoup de territoires où il n'y a pas forcément de collectif. Et nous, on en a déjà un sur lequel s'appuyer. Donc ça, c'est déjà une grande chance. Même pour une collectivité, ça, c'est intéressant parce que des fois, ils ont des réponses que nous, on n'a pas. Et là où ça va accélérer, c'est que l'an dernier, on a répondu à un appel à projet européen qui s'appelle LIFE, Let's Go for Climate, avec la région Centre. Et donc Aglopolis s'est porté comme territoire volontaire expérimentateur pour appuyer les projets d'énergie citoyenne les aider à monter en compétences et les aider aussi à grossir et pourquoi pas à permettre de créer d'autres collectifs sur le Blaisois, au sens large, vraiment les 43 communes. Et donc là, on en est là, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis des temps de pour l'instant, on a eu un temps de formation avec des maires, des citoyens, des acteurs économiques et puis des gens de Blaisois sur l'énergie, sur comment, par exemple, on peut faire de l'autoconsommation, sur comment les projets sont montés, etc. Et puis là, on va faire des temps d'intelligence collective pour former des gens de Blaisois qui vont devenir des ambassadeurs dans les territoires, encore plus intensément. Et puis l'autre truc, c'est qu'en plus de faire de l'ENR, j'aimerais qu'on aille aussi sur les questions de comment on porte la démocratie autour de l'énergie et comment à un moment donné, le politique ne décide pas seul, mais décide avec les gens. L'idée, c'est de créer une sorte de conseil local de l'énergie qui prendrait la décision politique de quelle est notre politique de l'énergie à l'agglomération. Et donc ça aussi, ça s'inscrit dans ce projet LIFE qui va faire monter des comités locales de l'énergie pour porter des projets d'énergie, mais aussi plus globalement pour penser notre stratégie d'énergie. Donc ça veut dire aussi économie d'énergie, ça veut dire sobriété numérique, ça veut dire ça peut aller sur plein de domaines. Et pour sortir du toujours les mêmes, où souvent, dès qu'on fait ce genre de choses-là, ben, à chaque fois, on tombe sur les têtes de réseau, le chef d'Enedis, les gens qui sont déjà très impliqués dans les assos, etc. Et donc, finalement, on retrouve les mêmes. J'ai demandé à ce qu'on expérimente sur notre territoire par rapport aux ciseaux du tirage au sort. Et donc, on va avoir 25 personnes qui sont des têtes de réseau, parce que c'est important d'avoir Blaisois, c'est important d'avoir Enedis, ça peut être important d'avoir des gens qui représentent les entreprises pour réussir à les embarquer avec nous, ou des agriculteurs ou autres. Mais aussi 75 citoyens tirés au sort, qui viennent de tous les territoires, pour pouvoir avoir des gens qui viennent de la campagne, de très loin, qui ont des problèmes de mobilité, des gens qui viennent des quartiers de Blois Nord, qui vivent sous le seuil de pauvreté, parce que la majorité des habitants de Blois, ils sont sous le seuil de pauvreté, pour aussi avoir des retours de la vraie vie, j'ai envie de dire, et pas seulement des... d'une certaine classe sociale, mais et que voilà que ça soit une décision politique qui soit éclairée par de l'expertise, mais aussi par du quotidien. Voilà.
Aujourd'hui, on est le 20 mai, là le soleil se couche, donc vers quelle heure environ
ça va
le,
pas tarder.
Le panneau va...
Ça va pas tarder, là il est 20h30, en plein été, au solstice d'été, on a des installations qui tournent jusqu'à 21h30. Et puis après, bah, ça s'éteint tout doucement. C'est-à-dire que dès lors qu'on passe en dessous du seuil, l'onduleur s'arrête. C'est-à-dire qu'il déconnecte automatiquement les modules photovoltaïques du réseau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux départementaux appartiennent aux communes via des syndicats intercommunaux à l'échelon du département. Alors, en Loire-et-Cher, c'est le SIDELC. Chacun a son nom. Et Enedis a une délégation de services publics, c'est-à-dire que les syndicats départementaux ou intercommunaux confient à Enedis l'organisation et l'exploitation du réseau. Alors, effectivement, on peut parler d'un certain monopole, d'une certaine inertie, peu importe. Leur rôle est de faire fonctionner la toile d'araignée que constitue le réseau et effectivement de mettre en connexion les producteurs, comme la centrale ici, avec des consommateurs, et effectivement, ce projet doit respecter un certain protocole. Il y a certainement d'autres pays moins organisés, où le taux de coupure, de blackout, etc., est peut-être plus élevé. Donc, effectivement, il y a... parfois une inertie relationnelle, faut pas dire que c'est une difficulté, il y a une inertie relationnelle pour faire aboutir des choses avec des gens qui parlent pas forcément comme nous ou à la même vitesse, le but c'est de toute façon d'y arriver et donc on fait en sorte de correspondre à la fois dans ce qu'on leur propose et dans leur protocole à un accord qui fait qu'on y arrive. C'est ce qu'on disait, moins d'un an entre un projet qu'on chiffre et sa mise en service. Donc oui, et là-dedans, il y a Enedis, et ça fonctionne quand même.
En fait, c'est utile, les projets citoyens, parce que ça nous permet d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite.
Mais on a plein d'autres projets qu'on peut monter. On peut faire de la géothermie. on peut faire des chaudières bois, on peut créer des réseaux de chaleur à l'échelle d'un quartier.
Et en fait, les citoyens, eux, petit à petit, ils deviennent des experts du sujet.
Des tuyaux d'eau chaude qui circulent à partir d'une chaudière en bois ou une chaudière en solaire thermique.
Ils deviennent des experts du sujet, ils font en sorte que les projets éthiquement soient cohérents, se mettent aux bons endroits, ils vont aller chercher les opportunités.
Donc c'est pour ça qu'il y a des projets qui sont faciles à faire, rapides, et qui sont des projets qui remontent le moral facilement. Donc en 3 ans, on peut arriver à monter un collectif citoyen depuis zéro et arriver à un premier projet. Donc typiquement, s'il y a une collectivité qui a une toiture disponible et qui dit à un collectif, bah, écoutez, j'ai une toiture, on sait qu'on peut faire un projet dessus. En un an et demi, ça peut tout.